Dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean, Jésus a guéri un aveugle de naissance un jour de sabbat. Il est interrogé par les pharisiens, des religieux très belliqueux. Le miraculé, lui, pense que Jésus est un prophète. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, ceux-ci faisaient quelquefois des miracles. En tout cas, lui, il croit que ce guérisseur vient effectivement de Dieu. Les pharisiens avaient déjà décidé que le Christ n'était pas le Messie, donc cette guérison n'avait pas pu avoir lieu comme elle avait été décrite. Comme on dit, il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Ces vipères religieuses avaient décidé que quiconque croirait en Jésus serait excommunié, c'est-à-dire vidé de la synagogue. Les pharisiens considéraient de plus en plus Jésus comme dangereux, sous-entendu, pour leur statut social, influence sur leur peuple, compte en banque et tout ça. En conséquence, ils commençaient à prendre des mesures pour le contrer. Je continue le texte. Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dire « Donne gloire à Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. » « S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Versets 24 à 25. Cet ancien aveugle est mis sous pression pour l'intimider. Il est solennellement exhorté à dire la vérité en se souvenant que rien n'échappe au regard de l'Éternel. Il lui faut retirer son témoignage et confesser sa faute qui lui a fait dire que Jésus est un prophète. Dans l'esprit des pharisiens, cela est impossible puisqu'ils ne respectent pas leur tradition un jour de sabbat. Voilà bien une religion fabriquée maison. Les prétentions de ces incrédules sont renversantes. Mais le miraculé tient bon. Il refuse de nier ce qu'il savait être la vérité. Il persiste et signe. Je continue. Ils lui demandèrent de nouveau, « Qu'est-ce qui t'a fait ? Redis-nous comment il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux ?»« Je vous l'ai déjà dit, leur répondit-il, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter ? Est-ce que par hasard vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples ?» Alors ils se mirent à l'injurier et ils lui lancèrent « C'est toi qui es son disciple, nous sommes les disciples de Moïse !» Versets 26 à 28. Les religieux veulent entendre à nouveau le compte-rendu des événements, espérant y trouver quelques contradictions. Cet ancien aveugle commence à perdre patience. Il leur a déjà tout raconté, alors il en a marre. Il a aussi compris qu'il a affaire à des fauchetons. Alors avec sarcasme, il leur demande s'ils ont changé d'avis et s'ils sont prêts à reconnaître en Jésus un maître. L'idée que ce mendiant illettré puisse suggérer une telle idée les remplit de fureur et ils l'injurient. À ce point du récit, il semble que cet homme a résolument pris parti pour le Christ, quoi qu'il lui en coûtera. Je continue. « Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là... « Nous ne savons même pas d'où il vient. »« C'est étonnant, répliqua l'homme, voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, et vous ne savez même pas d'où il est. » »« Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. »« Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle né de naissance. » Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. « Comment ? » répondirent-ils. « Depuis ta naissance, tu n'es que péché des pieds à la tête, et c'est toi qui veux nous faire la leçon. » Et ils le mirent à la porte. Versets 29 à 34. L'ironie est qu'effectivement, quand les religieux disent « Celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient », ils ne voulaient tout simplement pas savoir ni entendre que Jésus venait directement des cieux. Le mendiant ne se laisse aucunement impressionner et fait la leçon aux pharisiens. L'ironie est particulièrement grande. D'après la logique de ce miraculé, ce prodige était remarquable et unique car, disait-il, personne n'a jamais entendu dire qu'un aveugle né ait pu recouvrer la vue. Il raisonne avec justesse, disant que l'Éternel exaucait les justes et que par conséquent, ce Jésus est forcément issu de Dieu. L'Ancien Testament ne rapporte aucune guérison de cécité quelconque, qu'elle soit de naissance ou autre. Et dans le Nouveau Testament, les apôtres n'en firent pas non plus. Cette prérogative fut strictement réservée au Messie parce que lui seul est la lumière du monde. D'ailleurs, dans les évangiles, la guérison d'aveugles est le miracle le plus fréquemment attribué au Seigneur. Il va sans dire que les pharisiens, se voyant repris par un mendiant sans instruction, sont vexés au possible, l'injurient et le chassent de la synagogue d'où il est désormais excommunié. Je continue. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Il alla le trouver et lui demanda « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il lui répondit « Qui est-ce » « Dis-le-moi, Seigneur, pour que je puisse croire en lui. » Versets 35 à 36. Sans conteste, Jésus savait que ce mendiant avait tenu la dragée haute aux religieux, bafoués dans leur orgueil. Il prend à nouveau l'initiative dans le but d'éclairer complètement cet homme et de l'amener ainsi à une vraie foi, celle qui donne la vie éternelle et pas seulement la possibilité de voir le soleil. C'est en même temps un appel à s'engager pour lui. Ce miraculé avait peut-être été aveugle et mendiant, mais de toute évidence, c'était un battant. Il avait la constitution d'un futur disciple qui, dans la tourmente des persécutions à venir, n'aura pas froid aux yeux. C'est très certainement la raison pour laquelle Jésus le cherchait. Il savait que ses jours de ministère étaient comptés et qu'il lui fallait préparer la relève avec des disciples qui ont la trempe de cet homme afin de continuer sa tâche au travers de l'Église. Je continue. Jésus lui dit, « Tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. Je crois, Seigneur, déclara l'homme, et il se prosterna devant lui. » Versets 37 à 38. Une fois que le Seigneur se fut révélé à cet homme, celui-ci l'adora. Ce mendiant a tout compris et son évolution s'est faite à une vitesse vertigineuse. Tout d'abord, son guérisseur était l'homme qui s'appelle Jésus. Ensuite, un prophète, puis un maître qui a des disciples, enfin quelqu'un qui vient de Dieu, et maintenant le Fils de l'homme et Seigneur qui est digne d'adoration. Soit dit en passant, que Jésus accepta tout à fait que cet homme se prosterne devant lui, ce qui prouve bien qu'il se présentait à lui comme l'Éternel, le Dieu de l'Ancien Testament, qui seul était habilité à recevoir l'adoration de ses créatures, se prosterner devant qui que ce soit d'autre étant un acte d'idolâtrie. D'ailleurs, l'apôtre Jean, qui est aussi l'auteur du livre de l'Apocalypse, y écrit ceci. « Moi, Jean, j'ai entendu et vu tout cela. Après avoir entendu et vu ces choses, je me prosternais aux pieds de l'ange qui me les avait montrées et j'allais l'adorer. Non, me dit-il, ne fais pas cela, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui obéissent aux paroles de ce livre. Adore Dieu. » Fin de citation. Je continue le texte. Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Verset 39. Cet aveugle était l'exemple même de la personne qui, se sachant indigne de Dieu, est réceptive à la lumière du Christ et qui, au terme d'une progression, parvient à une foi authentique. Les pharisiens représentent ceux qui, dans leur suffisance et par orgueil, se rendent eux-mêmes aveugles en rejetant cette même lumière. Celle-ci provoque donc inévitablement un jugement. Elle est claire ou aveugle. Quiconque croit être en règle avec Dieu, hormis Jésus-Christ, est spirituellement dans les ténèbres. Je finis ce chapitre. Des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent « Serions-nous par hasard, nous aussi, des aveugles ?»« Si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables, mais voilà, vous prétendez que vous voyez. Aussi, votre culpabilité reste entière. » Versets 40 à 41. Il est de la nature du péché de tromper ceux qui le pratiquent de sorte qu'ils continuent à vivre dans le mensonge. Si les religieux juifs de tous bords s'étaient reconnus indigents sur le plan de la connaissance de Dieu, ils ne se seraient pas rendus coupables de ne pas avoir reconnu le Messie en la personne de Jésus. Mais ils étaient des prétentieux qui se croyaient supérieurs aux autres, des « m'as-tu vu ?» qui se savaient posséder du discernement spirituel plus que tous les autres hommes. En réalité, ils étaient sans le savoir dans les plus profondes ténèbres et entièrement responsables de leur conduite. Leur jugement, qui aura lieu en l'an 70 aux mains des Romains, sera sévère. Cette guérison de l'aveugle de naissance est pour l'apôtre Jean un épisode important puisqu'il en fait un récit détaillé avec une construction littéraire élaborée. L'auteur veut souligner l'évolution positive de l'aveugle et négative des pharisiens. Le premier s'en tient au fait et reconnaît humblement son ignorance, alors que les religieux s'enferment dans leur religion légaliste. Comme dans l'Ancien Testament, la guérison des aveugles est associée à l'intervention directe de Dieu seul. Pour un lecteur juif, ce miracle révèle que Jésus est le Messie. Nous voici arrivés au chapitre 10 de l'Évangile de Jean, dans lequel Jésus donne le discours du bon berger, qui est un des plus connus et la suite logique des événements du chapitre précédent. C'était chose courante au Moyen-Orient de comparer un peuple à un troupeau qui soit bien dirigé. Les rois et les prêtres se disaient les bergers de leurs sujets qu'ils comparaient à des brebis. Les textes sacrés utilisent souvent cette analogie. Plusieurs des grandes figures de l'Ancien Testament, comme Abraham, Jacob, Moïse et David, étaient regardés comme des bergers. En tant que chef de la nation juive, Moïse et David en particulier furent tous deux appelés bergers d'Israël. Certains passages, parmi les plus connus des Écritures, utilisent cette image que Jésus développa de plusieurs manières. Le rapport avec le chapitre précédent tient dans le contraste que le Seigneur établit entre l'homme aveugle de naissance et les pharisiens. Ceux-ci souffraient de cécité spirituelle tout en prétendant avoir du discernement. Devant l'obstination, l'aveuglement et la méchanceté des religieux qui ont cherché à obliger l'aveugle guéri à le renier, Jésus va dénoncer la manière dont ces vauriens dirigent le peuple. Ce ne sont que des loups, des voleurs, des brigands, des étrangers et de simples salariés payés pour un travail, mais sans avoir le souci des brebis du troupeau. Par contre, en tant que vrai berger, Jésus vint pour chercher et guérir ses brebis, qui entendent et reconnaissent sa voix, et répondent à son appel. Je commence à lire. Si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Versets 1 à 2. Encore une fois, Jésus commence son enseignement de manière solennelle par ses paroles « Vraiment, je vous l'assure », qui doivent susciter une attention renouvelée de la part de ses auditeurs parce qu'elles introduisent des notions importantes. À cette époque, les troupeaux d'animaux étaient rentrés au bercail à proximité de la ville. Pendant la nuit, on les parquait dans un enclos formé de murs de pierres sèches. Il était gardé par un portier afin d'empêcher les voleurs et les animaux de proie d'y entrer, car quiconque s'aventurerait à escalader le mur aurait certainement de mauvais desseins à l'esprit. Les premiers versets du chapitre vont décrire ce qui se passe quand le berger vient le matin pour chercher ses brebis. Les propriétaires entraient par une seule porte dans la même bergerie. Ils pénétraient dans une enceinte où se trouvaient plusieurs troupeaux appartenant chacun à un berger différent. Les brebis représentent les Juifs qui ont mis leur foi en Jésus, comme par exemple l'aveugle-né, tandis que les voleurs et les brigands sont les pharisiens et les autorités religieuses. Cette pègre avait usurpé l'autorité de Dieu sur le peuple. Loin de prendre soin du troupeau de l'Éternel, ils s'en servaient à leur propre fin pour avancer leur statut social et leur richesse. Jésus se présente dans ce chapitre comme le berger légitime, celui qui devait venir et qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Il devait naître à Bethléem, bien que ses jours remontaient au temps de l'éternité. Il aurait une vierge pour mère et serait l'Emmanuel de l'Éternel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Et il serait un descendant du roi David. Personne d'autre ne s'est jamais présenté à Israël avec de telles lettres de créance. Je continue le texte. « Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. » Versets 3 et 4. Le berger a le droit d'entrer dans la bergerie et il appelle ses brebis. En effet, les bergers donnaient souvent un nom à chacune de leurs bêtes. Lorsqu'elles entendaient le son de la voix familière de leur propriétaire les appeler, elles le reconnaissaient et s'avançaient vers lui. Il les conduisait alors dehors pour former son troupeau. Ensuite, il marchait en direction des champs et les brebis le suivaient. Par analogie, Jésus fait sortir ceux qui lui appartiennent de la bergerie du judaïsme et les conduit vers de nouvelles réalités spirituelles, comme la grâce et le pardon en son nom. Il avait, par exemple, appelé Pierre, Jacques, Jean et les autres disciples et l'aveugle-né du chapitre précédent. Et le Saint-Esprit leur avait ouvert le cœur pour qu'ils répondent à l'appel du Seigneur. Les religieux, par contraste, étaient non seulement aveugles face à la lumière du monde, mais également sourds à la voix du bon berger. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a dans les textes sacrés des enseignements quelque peu énigmatiques. L'un de ces passages est en rapport avec la fin des temps, et semble indiquer que chacun de ceux qui auront mis leur confiance en Jésus-Christ et qui donc feront partie de son troupeau recevra un nouveau nom qu'il aura pour l'éternité. Je lis le passage. « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. » Fin de citation. Lorsque le Seigneur reviendra pour chercher son épouse, l'Église, il appellera chacun de ses membres par son nouveau nom, et ceux qui sont morts entendront, se réveilleront et ressusciteront pour la vie éternelle en compagnie de Jésus pour berger. C'est ce qu'il avait déjà mentionné auparavant dans ce même évangile, lorsqu'il a dit « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. » Fin de citation. Je continue le texte. « Jamais elles ne suivront un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Versets 5 à 6. Le but de cette petite parabole est de montrer comment le berger forme son troupeau. C'est une attaque contre les pharisiens qui sont représentés par un étranger. Les hommes viennent à Dieu parce qu'il les appelle et la façon convenable de répondre est de suivre Jésus. Par contre, les brebis du Christ reconnaîtront les faux bergers et ne les suivront pas. Il y a eu et il y aura toujours des faux Christ, des faux prophètes, qui ont le pouvoir de tromper beaucoup de gens, et même pour un temps, certains véritables croyants, ceux qui ne sont pas suffisamment ancrés dans la compréhension des Écritures pour discerner le mensonge. Le Nouveau Testament prédit qu'à la fin des temps, l'Antéchrist viendra avec une capacité de tromper qui sera sans précédent. Je cite le passage. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Fin de citation. Seuls ceux qui auront en eux la vérité qui sauve, c'est-à-dire la connaissance personnelle de Jésus-Christ, reconnaîtront en cet impie le suppôt de Satan. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.